Vous écoutez France Culture. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Au troisième jour de la mobilisation des Gilets jaunes, de nouveaux blocages ont lieu aujourd'hui un peu partout en France. De son côté, et tout en assurant avoir entendu la colère des manifestants, le gouvernement martèle sa volonté de tenir son cap sur la fiscalité écologique frappant les carburants. Pour en parler, nous serons en ligne dès le début de ce journal avec le politologue Jérôme Sainte-Marie.
Carlos Ghosn, président de Nissan, a été arrêté ce matin à Tokyo.
Le constructeur japonais d'automobiles le soupçonne d'avoir, et pendant de très nombreuses années, déclaré des revenus inférieure au montant réel.
Dans votre journal également, la crise politique semble s'être atténuée en Israël.
Surtout, la perspective d'élections législatives anticipées s'est éloignée après qu'un parti ultranationaliste qui menaçait de faire tomber le gouvernement a finalement renoncé à ses exigences.
Qui dirige aujourd'hui le Gabon ?
Oui, la réponse est évidemment Ali Bongo, sauf que l'état de santé de l'actuel président hospitalisé en Arabie Saoudite est de nature à nourrir toutes les rumeurs. Et puis, Vladimir Poutine est attendu aujourd'hui à Istanbul pour inaugurer un tronçon du gazoduc censé alimenter l'Europe tout en traversant la Turquie, l'occasion d'apprécier combien les relations énergétiques entre puissances sont aujourd'hui conditionnées à des facteurs strictement géopolitiques. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et une grande table gastronomique aujourd'hui avec le fast-food en ligne de mire de cette émission. Le fast-food et le street-food, la restauration rapide en somme, une certaine idée de la France, de l'enseigne au tacos au camion de rue. Cette restauration rapide s'est faite une place dans l'Hexagone. Comment expliquer ce succès ? Est-ce qu'il y a une culture française du fast-food ?
Merci, à tout à l'heure. Si le gouvernement pariait sans doute sur un essoufflement de la mobilisation des Gilets jaunes, notamment à la faveur du retour au travail, c'est visiblement raté pour la troisième journée consécutive. Des opérations de blocage ciblant principalement des autoroutes mais aussi des dépôts pétroliers ont toujours cours ce matin. Alors on est évidemment très loin des 290 000 manifestants comptabilisés samedi dernier sur plus de 2000 sites. Ce lundi, un peu plus d'une centaine d'actions seulement étaient recensées un peu partout dans l'Hexagone. Sans compter que la détermination de certains se heurte bien souvent à l'intervention en réalité des forces de l'ordre. C'est le cas par exemple au péage de Virsac sur l'autoroute A10 en Gironde. La cinquantaine de gilets jaunes sur place a dû quitter le secteur. Parmi eux, Irvine, il témoigne d'une évacuation qui a eu lieu dans le calme, mais vous allez l'entendre, il reste toutefois déterminé à bloquer ailleurs.
Cette nuit, c'était plutôt tranquille avec les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de problème ni rien jusqu'à 7h du matin. 7h du matin, il y a eu un tour d'hélico et après, ils sont arrivés avec 19 camions de CRS et ils nous ont clairement dit soit vous dégagez, soit on vous met en tir au flashball. Voilà. Ils nous ont vraiment pris en joue, donc du coup, on est parti. On n'a pas eu le choix. Ça nous a déçus. On a réussi à parler avec les CRS, on a réussi à aller les voir. Ils nous disaient tant qu'on ne se sent pas agressé, on n'intervient pas. Et arrivé là, 2 heures après, ils nous ont pris d'assaut. Ils nous ont pris par surprise. Puis on était en manque d'effectifs, on était une cinquantaine, ils sont arrivés à 200. Enfin, 19 camions de CRS contre 50 personnes. Plus déjà ceux qui avaient sur place et tout. On faisait pas le poids du tout, du coup, on a été obligé de quitter les lieux. Mais on va continuer à bloquer là où on peut.
Voilà, un témoignage recueilli ce matin par Laurine Benjebria de France Bleu Gironde. Alors ce témoignage d'un gilet jaune en colère encore ce matin est évidemment rapproché de l'intervention télévisée hier soir du Premier ministre, même s'il a dit avoir entendu la colère, la souffrance et même le sentiment d'abandon des manifestants. Édouard Philippe n'en est pas moins resté inflexible en assurant qu'il tiendrait le cap. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors on le voit, miser sur la lassitude des manifestants est un pari risqué. Reste à savoir quelle réponse adaptée de l'exécutif serait en mesure de calmer la colère des Gilets jaunes. Et si même une telle réponse existe, est entendu que ce mouvement d'une part dépasse aujourd'hui largement les seules préoccupations liées au prix des carburants et que d'autre part il échappe complètement à tout contrôle aussi bien politique que syndical.
Oui, alors pour le moment la réponse politique du gouvernement, vous l'avez dit, est-ce qu'on a entendu hier soir avec Édouard Philippe, invité du journal de 20h sur France 2, il n'est pas question de changer de politique, a dit le Premier ministre.
Le mouvement des Gilets jaunes, il s'est exprimé de façon très claire. Donc j'entends ça. Mais je dis aussi qu'un gouvernement qui changerait de pied en permanence, qui zigzaguerait au gré des difficultés, il ferait ce qu'ont fait beaucoup trop de gouvernements par le passé et il ne conduirait pas la France là où elle doit être conduite.
Or, le mouvement qui s'est amorcé ce week-end avec cette contestation des Gilets jaunes et qui se poursuit, on l'a entendu tout à l'heure de façon sporadique ce matin, appelle une réponse politique. C'est notamment ce qu'a exprimé ce matin sur RTL une représentante des Gilets jaunes, Laetitia Deval. Elle se présente comme porte-parole du collectif des Gilets jaunes du Val d'Oise.
Nous, au niveau du collectif 95, nous n'avons qu'une seule revendication, c'est de mettre en place un référendum afin que Monsieur Macron puisse légitimer sa position de président de la République ainsi que son gouvernement, un référendum afin de légitimer leur position et le cas échéant d'avoir un gouvernement et un président qui, lui, connaîtra les difficultés du peuple et saura les reconnaître et tout mettre en œuvre afin de les aider dans leur quotidien.
Bien évidemment, cet appel à l'organisation d'un référendum est un peu maladroit. Il repose sur une légitimité politique quasi inexistante, puisqu'il émane d'une porte-parole inconnue d'un collectif départemental qui n'existait pas il y a encore quelques jours. Mais ce qu'on peut entendre à travers cette revendication, c'est bien un appel à une prise en compte de la colère et des difficultés de tous ces Français qui se sont exprimés à travers les manifestations ce week-end, et donc à une traduction politique de cette colère et de ces difficultés. Le problème est évidemment que ce mouvement n'est pas structuré, qu'il n'y a pas de leader, qu'il n'y a pas de revendication claire et précise. On n'est plus aujourd'hui seulement sur la question du carburant, mais sur une colère beaucoup plus globale d'une France qui souffre. Et en face, on l'a entendu avec le Premier ministre, on a un pouvoir exécutif inflexible et qui ne peut pas vraiment faire marche arrière, sauf à se condamner à l'impuissance politique. Il y a donc là un point de blocage dont on a bien du mal à imaginer vers quoi il pourrait nous emmener dans les jours et les semaines à venir.
Merci Stéphane Robert. Et pour poursuivre ce débat, invité du journal, Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de la Société d'études et de conseils PollingVox, spécialisé dans les enjeux d'opinion. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Une première question, est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes, Jérôme Sainte-Marie, pourrait être un tournant de la présidence Macron ?
Oui, je pense que c'est un tournant en termes d'image et peut-être même davantage, tout simplement parce qu'on voit apparaître à la formule et gauche et droite au sommet de la société française, donc ça c'est la République en marche, on voit apparaître une formule, symétrique, et gauche et droite et tout le reste, à la base de la société française. Donc là on a effectivement la polarisation voulue par Emmanuel Macron qui est en train de se dérouler, mais dans des conditions peut-être qu'il n'escomptait pas.
On a vu 280 000, 290 000 manifestants. Est-ce que on peut parler de succès relatif? C'est beaucoup et peu à la fois, on a l'impression. Comment vous jugez ça, vous?
Bon, bien sûr, il y a un hiatus énorme entre cette mobilisation de 300 000 personnes et le fait que les trois quarts des Français, d'après les sondages, soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Donc le passage à l'acte est très minoritaire. C'est toujours le cas. Je vois les choses un peu différemment. Il me semble que si on compare ça à d'autres mobilisations depuis le début du quinquennat, c'est une mobilisation très importante. On est très loin. Vous savez, il y a eu la fête à Macron, ce genre d'événement. C'était des chiffres qui étaient au moins trois fois inférieurs. Et là, il faut bien voir que pour les Français qui se sont rendus sur les lieux de rassemblement, sur les ronds-points, sur les parkings, etc., c'était un saut dans l'inconnu. Ils ne savaient pas très bien qui ils allaient rencontrer. Donc oui, le fait qu'il y ait quand même une concrétisation de cette émulsion virtuelle sur Internet me paraît quelque chose d'assez surprenant.
Vous parliez de la popularité de ce mouvement, c'est ce que semblent montrer les premières enquêtes. En quoi elles sont fiables? Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce qu'elles racontent pour l'instant?
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les enquêtes qui disent « est-ce que vous êtes prêt à participer ?», ça, ces enquêtes ne veulent pas dire grand-chose parce que c'est pas, on peut pas mesurer comme ça une intention de participer. Par contre, les enquêtes d'opinion faites par différents instituts convergent exactement sur deux choses. D'une part, un soutien massif de l'opinion, mais en même temps, un soutien très contrasté selon les milieux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a 30 points de différence, si vous voulez, entre le soutien des cadres, qui ne dépasse pas 40% par rapport au mouvement, et celui des ouvriers ou employés, qui, eux, s'y reconnaissent visiblement dans des proportions pratiquement doubles. On voit également que moins vous avez des revenus importants, et plus vous soutenez le mouvement. C'est pour ça que ce mouvement a une dimension sociologique qui l'emporte énormément sur sa dimension politique, d'ailleurs assez confuse.
Est-ce que vous diriez qu'on a là l'expression d'une France contre une autre, d'une France des villes contre celle des campagnes, une France qui s'adapte à la mondialisation contre une France qui l'a subie?
Oui, je ne crois pas que ce soit une opposition d'ordre géographique. On a l'impression, si on regarde les cartes, qu'il y a des oppositions géographiques, tout simplement parce que la population n'est pas répartie sur le territoire de manière neutre par rapport à son revenu. Mais c'est avant tout une séparation, une division verticale par rapport à la situation sociale qui, par ailleurs, peut s'illustrer de manière horizontale sur les territoires. Mais je ne crois pas que ce soit une lutte des territoires. Je pense que c'est beaucoup plus une opposition entre les milieux sociaux.
Est-ce qu'on a une idée de qui sont ces gens qui manifestent précisément? Est-ce que c'est la France des exclus?
Alors, c'est certainement pas la France des exclus ni des plus précaires. C'est la France de tous ceux qui travaillent, et qui ont quand même du mal à s'en sortir, qui vivent toujours dans l'insécurité financière. Vous savez que le salaire médian en France, c'est 1700 euros par mois, que là-dessus, il y a 150 euros en moyenne qui partent en carburant. C'est des gens pour lesquels les variations du prix du carburant peuvent complètement déstabiliser leur budget. C'est donc une France du travailleur modeste, pour ne pas dire du travailleur pauvre, le livreur, le chauffeur de taxi, tout cela, qui a du mal à s'en sortir. Ce qui explique ce que j'ai pu observer sur les lieux de rassemblement et les témoignages que j'ai recueillis indiquent une très grande diversité d'origine dans cette mobilisation-là, tout simplement parce que c'est bien la situation sociale qui l'emporte sur les dimensions identitaires.
On entend depuis ce week-end une comparaison avec ce qui s'est passé dans les années 50 avec Poujade et le poujadisme. Est-ce que c'est légitime cette comparaison ?
Oui, c'est une comparaison très lointaine. Alors, faut savoir que le mouvement poujadiste, qui est perçu rétrospectivement comme un mouvement d'extrême droite, parce qu'à la fin de sa trajectoire, il s'était allié avec les partisans de l'Algérie française. Au départ, le mouvement de Poujade commence à s'insérer, et plus généralement, donc la ville de Saint-Céré dans le Lot, ça prospère sur les terres radicales socialistes. C'est un mouvement qui ne prend une coloration d'extrême droite que, encore une fois, dans son histoire, dans son déroulement de son histoire. Mais effectivement, comme le mouvement de Poujade à l'origine, c'est aussi un mouvement qui me paraît emprunté énormément à l'imaginaire républicain, à l'imaginaire même de la Révolution française. Vous avez vu hier que quand les quelques personnes, pas très nombreuses d'ailleurs, se retrouvent devant le palais de l'Élysée, ils entonnent spontanément la Marseillaise, tout simplement parce qu'on vit dans cet imaginaire particulier à la culture française.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui si ce mouvement est amené à s'amplifier ou si on va vers un essoufflement ?
Rapidement.
C'est extrêmement difficile à dire. Le fait que le mouvement ne soit pas organisé, à mon avis, l'empêche de manœuvrer. Si la logique serait qu'ils attendent samedi prochain pour une mobilisation supérieure, ils ne se contrôlent pas eux-mêmes puisqu'ils sont dans l'horizontalité démocratique et il risque d'y avoir un pourrissement, une forme de guérilla avec des risques de dérapage du mouvement qui permettrait au pouvoir de l'isoler, de le réprimer, de le disperser.
Merci Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de la Société d'études et de conseil Polling Vox, spécialisé dans les enjeux d'opinion, d'avoir été en direct avec nous. Merci à Gilles Gallinaro pour les moyens techniques, ainsi qu'à vous Stéphane Robert. Faut-il y voir une illustration supplémentaire de ce désaveu grandissant d'une partie de la population envers les politiques en général? Hier, à peine plus de 18% des inscrits se sont déplacés dans les bureaux de vote à l'occasion du premier tour de l'élection législative partielle organisée en Essonne. Sans surprise, les deux favoris sont arrivés en tête. Francis Choix, le maire d'Évry, ex-bras droit de Manuel Valls, sans étiquette, mais adoubé par La République En Marche, a remporté un peu moins de 30% des suffrages devant la candidate de la France Insoumise, Farida Amrani, qui elle a obtenu 17,82% des voix. Le deuxième tour aura lieu dimanche prochain. Tribunaux engorgés et prisons surpeuplées, les députés de l'Assemblée nationale entament aujourd'hui l'examen de la réforme de la justice, laquelle suscite d'ores et déjà les critiques des oppositions, mais aussi et surtout des magistrats et des avocats. Ils critiquent un projet selon eux purement gestionnaire, redoutent des fermetures des sites et dénoncent un recul de la présence des juges. Après son déplacement à Berlin hier et son discours devant le Bundestag réclamant une refondation de l'Europe face au risque de chaos mondial, Emmanuel Macron, l'Européen, se rend aujourd'hui chez un autre voisin, la Belgique. Une rare visite d'État centrée là encore sur le thème de l'Europe. Le président français devrait notamment y évoquer la question du Brexit alors que s'ouvre aujourd'hui une ultime semaine de négociations sur l'accord de divorce négocié avec Londres. Ce matin, les ministres des Affaires européennes des 27 ont donné leur feu vert. Et puis, toujours s'agissant de l'UE, c'est aujourd'hui également que la France et l'Allemagne doivent présenter leur projet de budget commun pour la zone euro. Projet qui devrait dans un premier temps se limiter à financer des investissements, ce qui signifie qu'il ne sera pas question par exemple d'employer ce budget à aider des pays de la zone euro qui traversent une passe économique difficile. L'information avait filtré ce matin dans la presse nippone. Elle a depuis été confirmée. Carlos Ghosn, le PDG de Nissan, mais aussi de Renault, dont l'État français est actionnaire à hauteur de 15%, a été arrêté au Japon. Le constructeur d'automobiles japonais le soupçonne d'avoir sous-évalué sa propre rémunération dans des rapports financiers. C'est une correspondance signée Frédéric Charles.
Selon la presse japonaise, Carlos Ghosn a été arrêté pour avoir dissimulé une partie de son salaire au fisc japonais. Le siège de Nissan est perquisitionné par des juges et des enquêteurs de l'Agence nationale japonaise des impôts. Nissan confirme que Carlos Ghosn a pendant de nombreuses années déclaré des revenus inférieurs au montant réel. Il a aussi utilisé des biens de l'entreprise à des fins personnelles. Et Nissan va proposer au conseil d'administration que Carlos Ghosn soit démis de son poste de président du conseil d'administration du constructeur automobile. Pour l'année 2015-2016, Nissan a versé à Carlos Ghosn des revenus estimés à 9 millions d'euros. Nissan prend ses distances par rapport à Carlos Ghosn et coopère pleinement avec des juges japonais considérés comme d'une extrême sévérité en matière de violation du fisc.
Si la plupart des commentateurs ne donnaient plus cher du gouvernement de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien aura une fois de plus réussi à les faire mentir. Après qu'un ministre clé a annoncé ce matin qu'il n'exigeait plus le portefeuille de la défense pour rester, Benjamin Netanyahou semble donc avoir sauvé, pour le moment du moins, son gouvernement le plus à droite de l'histoire, et ce, même avec une majorité minimale. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Une fois encore, Benjamin Netanyahou s'est sorti donc d'une situation que tout le monde croyait inextricable.
Oui, c'est un nouveau tour de force du Premier ministre. Sa politique sécuritaire avait été vertement critiquée ce matin par les leaders du Parti nationaliste. C'était lors d'une conférence de presse, mais Naftali Bennett, qui avait menacé de quitter le bateau, a fait marche arrière. Il annonce donc ce matin qu'il renonce à ses exigences. Il reste au gouvernement. La crise politique se referme après une semaine environ de soubresauts. Le choix des nationalistes religieux est sans doute guidé par des considérations électoralistes. En quittant le navire, il prenait le risque de porter la responsabilité des répercussions. Benjamin Netanyahou avait dramatisé la situation hier soir à la télévision. Il avait parlé d'irresponsabilité. Il avait agité le spectre de la menace sécuritaire et de la défaite électorale pour la droite. Le gouvernement obtient donc un sursis ou un délai, on verra dans le temps. Il retrouve une voix de majorité au Parlement. C'est un retour à une situation il y a 2 ans et demi en arrière, où à l'époque, le Premier ministre avait considéré que c'était intenable pour gouverner. Benjamin Netanyahou va maintenant pouvoir mettre de la distance entre cette période de mécontentement ambiant et les prochaines élections. Il va maintenant lui-même piloter le ministère de la Défense dans une situation de cumul des mandats, puisqu'il est déjà à la tête du ministère de la Santé et du ministère des Affaires étrangères qu'il compte léguer à un proche maintenant que la crise politique est résorbée. Reste à voir l'impact de cette situation sur sa marge de manœuvre. L'extrême droite menace de peser sur sa politique sécuritaire, même si elle vient aujourd'hui de faire un saisissant aveu de faiblesse.
Merci Étienne Monin, en direct de Jérusalem. Pour qui souhaiterait tracer aujourd'hui sur une carte certaines des lignes de fracture les plus sensibles de la planète, il est un moyen relativement simple, suivre du doigt l'itinéraire des gazoducs reliant par le fond des mers la Russie à l'Europe occidentale. Quand le projet Nord Stream prévoit la construction d'une conduite en provenance du littoral russe à destination de l'Allemagne par la mer Baltique, le projet Turk Stream, lui, doit également à terme approvisionner l'Europe, mais en reliant dans un premier temps la Russie à la Turquie à travers la mer Noire. Et c'est justement pour célébrer la fin de la construction du tronçon maritime de ce gazoduc que le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, est attendu aujourd'hui à Istanbul. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors ces deux projets d'oléoduc, l'un au nord et l'autre au sud, sont destinés, on l'a dit, à approvisionner l'Europe, sauf qu'ils répondent en réalité à un autre objectif, celui de contourner l'Ukraine depuis que Kiev et Moscou sont en conflit ouvert.
Oui, ils répondent aussi à cet objectif, Thomas, de contournement de l'Ukraine. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus moteur dans ces projets. Prenez le premier, le projet Nord Stream 2. Il ne s'agit pas que d'un gazoduc russe, mais d'un gazoduc germano-russe, et dont la construction, qui vient tout juste de commencer au départ des deux pays, l'Allemagne et la Russie, dont la construction répond à une demande effective de l'industrie allemande de pouvoir bénéficier de ce gaz russe en quantité plus abondante et moins chère. Pareil pour le projet Sud, le Turk Stream, dont la partie immergée qui traverse la mer Noire du nord-est russe jusqu'au sud-ouest turc sera inaugurée ce lundi à Istanbul par Vladimir Poutine et son homologue turc. Là, il s'agit d'un gazoduc double, un premier tube d'une capacité capacité de 15 milliards de mètres cubes par an, susceptible d'alimenter les besoins turcs, qui sont réels et importants, et puis un second tube, jumeau, de la même capacité et qui, lui, devrait pouvoir, à terme, alimenter les pays du sud de l'Europe, les anciens pays de l'Est, balkaniques comme la Bulgarie, et plus au nord, la Hongrie, où 60 à 80% du gaz naturel consommé est du gaz russe. Mais aussi vers d'autres marchés, à terme beaucoup plus lucratifs pour le géant gazier russe Gazprom. Le marché italien, par exemple. L'Italie est le second marché d'Europe derrière l'Allemagne, avec 75 milliards de mètres cubes consommés par an. Pour le moment, Gazprom n'a pas encore choisi quelle route prendre pour acheminer le gaz de son second gazoduc vers l'Europe. Direction l'Italie via la Grèce ou vers l'Europe orientale via la Bulgarie. Reste que les entreprises européennes se bousculent au portillon pour être partenaires du projet. Quant aux politiques, les uns comme les autres font assaut d'amabilité à l'endroit de la Russie. La semaine dernière, le ministre hongrois des Affaires étrangères s'enthousiasmait de l'arrivée de Turkstream. Fin octobre, c'était le premier ministre italien qui, depuis Moscou, où il était reçu par Vladimir Poutine, demandait la fin des sanctions européennes contre la Russie. Vous le voyez, Thomas, le gaz russe excite les appétits d'absolument tout le monde.
Alors, avant que ce projet Turkstream n'aboutisse, la Russie avait envisagé dans un premier temps un autre trajet prévoyant la construction d'une conduite, toujours sous la mer Noire, mais vers la Bulgarie et non pas la Turquie. Preuve là encore, Eric, que la relation énergétique globale entre États est aujourd'hui conditionnée à des facteurs géopolitiques.
Oui, alors les pays producteurs d'énergie, particulièrement d'énergie fossile, ont depuis longtemps pensé à utiliser leur poids économique pour faire avancer leur agenda, leur ordre du jour politique. Pensez par exemple au premier choc pétrolier en 73. Les pays arabes décident de majorer le prix de l'or brut de 70% en une seule fois pour faire pièce aux Occidentaux, alliés principaux d'Israël pendant la guerre du Kippour. Pour le gaz, la Russie, premier producteur mondial, n'a pas hésité de la même manière à couper l'alimentation ukrainienne en gaz en 2006, en 2009 et à relever ses prix pour faire pression sur Kiev en 2013 quand l'Ukraine se dirigeait vers la signature d'un accord de coopération avec l'Union européenne, un accord dont Moscou ne voulait absolument pas. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché la crise ukrainienne de l'hiver 2014 et finalement les opérations militaires russes en Ukraine, l'annexion de la Crimée et l'occupation d'une partie du Donbass ukrainien. Aujourd'hui, la Turquie est en passe de se retrouver elle aussi complètement dépendante de la Russie pour ce qui est de son gaz, lequel gaz permet la production de la moitié de son électricité. Il ne faudrait pas que, comme ça s'était déjà passé en 2015, quand la chasse turque avait abattu un avion russe au-dessus de la Syrie, que les deux pays se retrouvent à nouveau à couteau tiré. La Russie, avec son gaz, aurait cette fois les moyens de quasi étrangler l'économie turque.
Merci Eric Biegala. Le ministre britannique des Affaires étrangères est arrivé aujourd'hui pour la première fois en Iran. Jeremy Hunt s'entretiendra avec des représentants du gouvernement iranien de plusieurs questions, dont l'accord de 2015 sur le nucléaire. Après le retrait des États-Unis, Téhéran réclame à l'UE de préserver les avantages économiques de cet accord, lequel demeure par ailleurs un élément essentiel de la stabilité au Moyen-Orient. À ce titre, Jeremy Hunt devrait également évoquer la guerre au Yémen et en particulier ses informations selon lesquelles l'Iran aurait fourni des armes aux rebelles. Houssi, quoi qu'il en soit, les miliciens chiites Houssi justement ont annoncé hier qu'ils étaient prêts à un cessez-le-feu d'une plus grande ampleur si toutefois la coalition militaire conduite par Riyad veut la paix. Alors on le voit, le contexte international a grandement évolué depuis le meurtre de Jamal Khashoggi. Donald Trump a déclaré ce week-end qu'il recevrait demain un rapport définitif qui lui permettra de se prononcer sur la chaîne de responsabilité ayant conduit à la mort du journaliste. Selon la presse américaine, la CIA serait parvenue à la conclusion que le prince héritier d'Arabie Saoudite avait lui-même commandité l'assassinat du journaliste dissident. Lui est hospitalisé en Arabie Saoudite depuis 3 semaines. Lui, c'est l'actuel président du Gabon, Ali Bongo, victime officiellement d'un malaise, quand certaines sources parlent plutôt d'un AVC. Alors face aux rumeurs contradictoires sur son état de santé, eh bien le porte-parole de la présidence a précisé qu'il était en phase de recouvrement de ses facultés physiques, ce qui, Valérie Crova, n'est pas franchement de nature à rassurer les Gabonais.
Personne ne sait dans quel état se trouve aujourd'hui Ali Bongo. À l'instar de nombreux Gabonais, Jean-Gaspard Toutoumaï, membre de l'Union Nationale, l'un des principaux partis d'opposition, ne se contente pas des déclarations officielles.
Il y a un mensonge d'État. Les fonctionnaires de la présidence de la République sont venus dire aux Gabonais, au départ, que le président de la République avait une fatigue légère, ensuite qu'il avait une fatigue sévère, pour finir par dire qu'il a été opéré à la suite d'un saignement. Si Ali Bongo ne peut plus exercer ses fonctions, qu'on fasse en sorte que le Gabon ait un chef d'État. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas sérieusement être dans cette situation.
Toujours hospitalisé à Riyad, l'absence d'Ali Bongo entraîne de fait une vacance du pouvoir. La Cour constitutionnelle, dirigée par l'ancienne maîtresse d'Omar Bongo, le père d'Ali, a donc décidé de modifier un paragraphe de la Constitution, ce qui permet au vice-président d'exercer plusieurs fonctions réservées au chef de l'État. L'opposition parle d'un coup de force.
Les militaires ne s'y seraient pas pris autrement. La Cour constitutionnelle a pris possession de la Constitution du Gabon. En gros, à Libreville, on dit la Cour constitutionnelle est devenue la régente.
Sans information précise sur le mal dont souffre leur président, les Gabonais continuent de spéculer sur ses capacités physiques et intellectuelles.
Moi, j'ai envie de voir Ali Bongo, y compris en pas bonne santé. Est-ce qu'il entend ? Est-ce qu'il voit ? Est-ce qu'il parle ? Ce sont des questions qu'on peut se poser.
L'éloignement d'Ali Bongo, s'il devait se prolonger, pourrait avoir des conséquences sur l'économie gabonaise, elle aussi malade depuis la chute des cours du pétrole.
On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Sec et relativement bien ensoleillé de la Bretagne et du centre aux Landes, partout ailleurs. Nuages et précipitations, même des flocons attendus dans l'Est et sur le Massif central. Les températures, elles seront comprises entre 2 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.